France Culture.
Nous avons connu en 2024 une actualité anxiogène, sombre, faite de conflits et de guerres, de reculs démocratiques, d'une crise écologique qui progresse à bas bruit médiatique, mais bouleverse le quotidien de millions de personnes. Dans ce cadre-ci, certains optimistes soulignent les progrès réalisés par l'intelligence artificielle, par le développement des énergies renouvelables, par la progression des droits humains. L'humanité, malgré tout donc, peut-être même sans qu'elle ne le réalise, se dirigerait vers le meilleur. Alors dans un monde où le chaos peut paraître plus certain que le progrès, être optimiste a-t-il encore du sens? L'optimiste est-il un naïf face à un pessimiste qui, lui, verrait le monde tel qu'il est? Agir et continuer d'espérer, est-ce la solution? Pour en discuter, pour en débattre, même deux invités ce soir. Laurence de Villers, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, enseignante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous avez publié en 2024 cet ouvrage intitulé « Être quelqu'un de bien, philosophie du bien et du mal ». C'était aux éditions Point. Avec nous également et à distance, Frédéric Lenoir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe et écrivain, vous avez publié cet ouvrage intitulé « Lui, le rêve » de Marc Aurèle. C'est aux éditions Flammarion et c'est apparu cette année également. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Avant toute chose, une petite mise au point. Dans cette histoire, nous allons parler de l'avenir. Et notre avenir peut être effrayant. Quoi ?
T'es sûr que tu veux dire effrayant ?
Bah oui, effrayant, c'est le mot.
D'accord.
Je reprends. Le futur peut être effrayant. Instabilité politique. Surpopulation. Guerre sur tous les continents, famine, manque d'eau, effondrement des écosystèmes.
Et le progrès scientifique, les merveilles de la nature.
Est-ce que tu peux arrêter de m'interrompre, s'il te plaît?
D'accord, mais essaie d'être un peu plus positif. Oui, parle de ce que t'aimes.
Je ne vais rien pouvoir leur raconter si tu ne me laisses pas m'exprimer.
C'est vrai, pardon.
Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à chaque seconde qui s'écoule, on s'en approche toujours un peu plus.
Oh, je sais. Parle-leur du jour.
Avant de leur parler de quoi que ce soit, il faut que je leur explique l'essentiel.
On pourrait pas commencer par autre chose.
Très bien. Alors, par quoi devrais-je commencer, selon toi?
Tu m'as dit que le futur n'a pas toujours été comme ça. Je me trompe?
Non, c'est vrai. Quand j'étais petit, le futur était...
différent, n'est-ce pas?
Oui.
Super, c'est un bon début, ça.
Extrait de ce film intitulé « À la poursuite de demain » réalisé par Brad Bird avec George Clooney qui incarne le protagoniste. Alors Laurence de Villers, par quoi faut-il commencer? Par l'optimisme ou par le pessimisme en janvier 2025?
Ben, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre pour deux raisons. Alors d'abord je dirais parce que c'est pas philosophique, même si le plus souvent on me demande si je suis pessimiste et optimiste et à chaque fois ça me surprend parce que c'est pas une question philosophique, même si on peut tenter d'y répondre philosophiquement, mais je répondrai ni l'un ni l'autre parce que je crois que le malentendu autour de ces termes consiste à croire que le pessimisme et l'optimisme désignent un rapport objectif à la réalité. Et c'est pas le cas. C'est comme si on essayait de dire qui a le plus raison et qui est davantage dans le vrai, le pessimiste ou l'optimiste. Mais en fait, ni l'un ni l'autre. Parce que c'est pas une question de vérité, c'est pas une question de réalisme, c'est pas une question de rapport à la réalité. Je crois que le pessimisme et l'optimisme sont tous les deux de l'ordre de la croyance.
Est-ce que vous partagez, Frédéric Lenoir, ce point de vue? Il faudrait s'arracher de cette dichotomie entre pessimisme d'un côté, optimisme de l'autre, parce que les deux notions ne relèvent pas du champ philosophique, mais bien de l'ordre de la croyance.
Alors, je le partage en grande partie, mais pas totalement. Alors, en grande partie, parce que effectivement, c'est pas essentiellement une question philosophique. Je dirais que pour définir les choses, l'optimisme et le pessimisme peuvent être une question d'abord de tempérament, de sensibilité. Vous avez des gens qui ont une nature optimiste, vous avez des gens qui ont une nature pessimiste, c'est-à-dire des gens qui ont toujours tendance à voir le positif et à trouver des solutions, et des gens qui voient plutôt le négatif et qui pensent qu'il n'y a pas de solution. Donc là, je dirais que ça existe déjà dans nos sensibilités. Mmh. Après, Laurence de Villers a tout à fait raison de dire que c'est essentiellement une croyance, puisque penser que les choses vont s'améliorer ou croire qu'elles vont s'améliorer, ça repose beaucoup sur une sorte d'auto-conviction où on se dit les choses vont aller mieux, ou au contraire, on est persuadé que les choses vont aller de mal en pis, mais après tout, on n'en sait rien. Donc moi, ce qui me paraît quand même important, c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Laurence de Villers, c'est que dans tous les cas, c'est la lucidité qui compte. C'est-à-dire, c'est d'être face à la réalité des faits. Et donc, ce qui distinguerait, et c'est là que j'apporte quand même une nuance, ce qui distinguerait le pessimiste de l'optimiste, c'est que face à un même constat, une même lucidité, une même observation rationnelle des choses, l'un peut dire, on est complètement foutu, il n'y a aucune solution possible. Et ça peut être une intime conviction rationnelle, fondée sur des raisons. Et ça, c'est ce que j'appellerais le pessimiste philosophique. Et puis, il y a celui qui serait un optimiste philosophique, c'est-à-dire sur le même constat d'observation rationnelle des faits, peut dire il y a des solutions. Et parce que je pense qu'il y a des solutions, je vais évidemment m'engager ou me battre pour les trouver. Donc là, on voit quand même des distinctions qui me semblent exister entre deux types d'attitudes, celui qui croit que tout est foutu et celui qui dit... à partir de la même observation, tout aussi lucide, et là, Laurent de Villers a raison de rajouter, ça doit reposer sur la lucidité, sur la vérité des faits. Eh bien, il y a des solutions, et c'est pour ça que je m'y engage.
Laurence de Villers, vous souhaitiez réagir, et sans vous inquiéter, je vous demanderai quand même de choisir entre pessimisme et optimisme.
Alors, si vraiment vous me forcez à choisir, mais Frédéric Lenoir dirait que c'est ma sensibilité, et je suis d'accord, moi je suis résolument pessimiste. Je pense qu'on l'est même jamais assez. Et je vais vous dire aussi que les philosophes qui m'ont le plus consolée quand j'allais mal, quand j'étais pessimiste, c'était les philosophes les plus sombres qui existent.
C'est-à-dire pourquoi ?
Parce que quand on va mal, je crois que la consolation qu'on essaie de nous apporter en nous disant positive, regarde, il y a des choses bien, etc. Il y a rien qui énerve davantage et il y a rien qui plonge encore plus dans la tristesse. Pourquoi ? Parce que les gens qui nous consolent nous parlent d'un temps et d'un lieu où on n'est pas. Nous, pour l'instant, on voit noir et on nous dit mais non, regarde, il y a plein de lumière. Oui, mais on la voit pas. Et moi, je sais que les auteurs qui m'ont aidée dans ma vie quand j'allais mal, c'était des auteurs de que j'appellerais de la philosophie noire, comme il y a des romans noirs. C'est Pascal, par exemple. Moi, Pascal. Alors c'est sombre. À chaque fois, on me dit ah Pascal, c'est pessimiste. Ben non, c'est de la philosophie noire, c'est-à-dire c'est une lucidité qui voit clair parce qu'elle voit noir. Voilà, moi je trouve qu'on voit clair, on a les idées claires quand on voit noir.
C'est l'expression de Paul Valéry, hein. Voir clair, c'est voir noir. Pardon, je vous laisse poursuivre.
Oui, mais et parce que je pense, c'est paradoxal, hein, mais je pense que derrière la question d'optimisme et de pessimisme, il y a évidemment la question du bonheur. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il n'est pas possible? Il y a la question laissée vide désormais du progrès, parce que plus personne ne peut vraiment dire qu'il croit au progrès, mais il continue peut-être à croire à l'optimisme. Et il y a la question de la consolation. Face à la réalité, qu'est-ce qui va me consoler ? De me dire que je vais être capable d'optimisme, et Frédéric Lenoir a raison, par sensibilité, est-ce que je vais en être capable ou pas capable ? Et moi, je trouve que la consolation qui console le plus, c'est celle qui dit encore plus la lucidité. Parce que je crois que quand on est dans le noir, dans le sombre, il reste plus qu'une chose, et c'est à mon sens la seule chose valable, c'est d'agir.
Frédéric Lenoir, est-ce que vous êtes vous aussi du parti de Paul Valéry ? Est-ce que vous êtes également du parti du pessimisme ?
Non, je crois que j'ai une sensibilité plutôt optimiste. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce que vient de dire Laurence de Villers, moi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que parce que mon tempérament est d'une sensibilité plutôt optimiste, j'ai plutôt tendance à voir toujours le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Eh ben, j'étais attiré par des auteurs qui développent une philosophie plutôt optimiste. Et donc, plutôt par les stoïciens, plutôt par Spinoza, plutôt par Montaigne, qui sont des philosophes qui essayent de construire la possibilité d'un bonheur durable, profond, quelles que soient les adversités, les obstacles, les difficultés du monde extérieur, etc. Et donc, je pense que fondamentalement, notre tempérament nous oriente vers un type de philosophie. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que les auteurs qui sont souvent, qui ont développé une philosophie les plus pessimistes, prenons Schopenhauer, c'est quelqu'un qui a vécu que des drames dans sa vie. C'est-à-dire, sa vie est tellement noire, tellement pleine de douleurs. Il n'avait quasiment aucun enseignant, aucun élève lorsqu'il enseignait. Il a vécu des drames affectifs, des problèmes de santé, etc. et tout. Ben, il développe une philosophie qu'on pourrait dire extrêmement lucide, mais très pessimiste. Alors, il n'y a pas d'issue véritablement possible. Alors que, quand on voit Montaigne, qui était un bon vivant, Spinoza, qui avait une sensibilité très joyeuse, mais ils ont construit effectivement une philosophie qui donne la possibilité du bonheur. Et ça, c'est plutôt vers ce type de philosophie que je suis naturellement attiré, même quand je vais pas bien. Parce que quand je vais pas bien, je cherche pas à me bercer d'illusions. Je suis tout à fait d'accord avec Voltaire quand il dit « je préfère être malheureux face à une vérité qui me choque que d'être un imbécile heureux », c'est-à-dire de me voiler la face. Et donc je cherche toujours à être dans la vérité, je cherche toujours à être lucide. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a toujours la possibilité de s'améliorer, la possibilité de grandir, la possibilité d'être plus heureux, tant sur le plan individuel que collectif.
Frédéric Lenoir citait Schopenhauer, celui-là même qui disait « la vie humaine va de la souffrance à l'ennui ». Est-ce que le risque tout de même, Laurence de Villers, du pessimisme, ce n'est pas le risque du fatalisme? Au fond, si on voit tout en noir, si on voit que l'avenir sera forcément plus sombre que le présent, est-ce qu'on ne risque pas justement de se détourner de l'action, contrairement à ce que vous sembliez dire tout à l'heure?
Oui, alors vous avez raison, parce que de sonner l'alarme. Je pense que ce qui guette le pessimisme, c'est le à quoi bon. En fait, une forme de cynisme. À quoi bon, pourquoi le faire, ça changera rien, les hommes sont comme ça. Et ça, effectivement, c'est la limite malheureuse du pessimisme. Je prône au contraire un pessimisme qui, étant allé jusqu'à la lucidité la plus rude, va justement vouloir changer les choses. Mais je pense effectivement, c'est ce qu'a dit Frédéric Lenoir, c'est que, évidemment que derrière cette question, et c'est pour ça qu'on peut pas la résoudre, il y a la question du bonheur. Alors, est-ce que je préfère être un imbécile heureux, me mentir moi-même, me dire que oui, il y a plein de choses que je peux positiver, que de toute façon, ça ira mieux, ou est-ce que je veux affronter la vérité dans ce qu'elle a de presque insupportable. Et moi, mon école, celle que je choisis, c'est d'aller affronter la vérité, même quand elle me déplaît, et surtout parce qu'elle me déplaît. Mais encore une fois, je suis d'accord avec vous, Quentin, il faut avoir en tête que le pessimisme peut se renverser dans son contraire, qui va être l'inaction, le à quoi bon. Je pense aussi, et je me fais la critique à moi-même, que le pessimisme est facile. C'est-à-dire que je crois qu'on a une tendance à dire, et puis parce que le monde nous donne raison, que oui, on a tendance à être du côté d'Alceste dans le misanthrope. Mmh. Oui, les hommes sont comme ça, ils sont menteurs, ils sont des loups entre eux. Il y a une sorte de facilité, pas tant de fatalité que de pente facile à trouver que le monde va mal et que les hommes sont pas les plus intéressants des bestioles. Mais moi, j'essaie toujours de sourire de mon propre pessimisme. C'est-à-dire que ce pessimisme n'ignore pas les larmes, ça on est d'accord, mais qu'il n'ignore pas le rire non plus. Vous voyez, d'une certaine façon, j'essaie d'avoir un pessimisme qui est capable de rire. Parce que, encore une fois, ce serait trop facile sinon de dire que tout va mal.
Alors justement, si ce pessimisme peut vous faire rire, on va tenter de vous faire rire cette fois-ci avec Pierre Repp. Il s'exprimait le 27 novembre 1961 dans un sketch resté dans les annales.
Sans la certitude, la permanence, voilà ce qui fait le bonheur, c'est la permanence. Ben, si vous voulez être heureux, faites comme moi. Moi, je suis pessimiste. Ah, ça demande du boulot, ça se fait pas comme ça, faut y penser. Faut être inventif, faut être imaginatif, ça... Tous les soirs, moi, j'invente les malheurs les plus neufs, les plus invraisemblables. Je me dis, bon, ben tiens, par exemple, aujourd'hui, je me disais, c'est pas la peine que j'y aille, il n'y aura pas de métro, je ne pourrai pas venir, il y aura la grève. C'est pas vrai, c'est demain. Je me disais, mais demain, il va pleuvoir, etc. Pas du tout. Je regarde sur le carreau, c'est des perles qui goûtent tout le long des vitres. Et puis alors, je me dis, une femme, pourquoi faire? Pour être trompée. Elle ne m'a jamais trompé, elle me l'a toujours dit. Non. Et tous les jours, croyez-moi, tous les jours, j'invente un truc nouveau, un truc sensationnel, un truc mortel. Demain, je serai embouilli par un camion et ma femme aura des malheurs toute sa vie et elle aura 10 millions de dettes, elle ne mourra qu'à 110 ans.
Alors voilà, Frédéric Lenoir, est-ce que, dans le fond, le pessimisme peut nous permettre de nous porter nous-mêmes vers une forme de bonheur et de joie?
Le pessimisme ou l'optimisme, excusez-moi.
Le pessimisme, la façon dont vient de l'expliquer, oui. Ou dont vient tenter de l'expliquer Pierre Repp.
Oui, tout à fait. Écoutez, pourquoi pas? C'est-à-dire que moi, j'en ai pas fait l'expérience parce que je n'ai pas cette nature pessimiste, mais on peut effectivement imaginer qu'il y a toujours pire et avoir tout le temps des bonnes surprises. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un des exercices spirituels que pratiquaient certains stoïciens. c'est qui consiste à imaginer que les choses vont très très mal se passer pour avoir finalement la bonne surprise qu'elles se passent beaucoup mieux qu'on imaginait. Donc ça peut faire partie des exercices de l'imagination qui existaient dans les exercices de l'Antiquité pour essayer de se préparer à une situation. On imagine le pire et puis finalement on peut avoir des mauvaises surprises. Alors que si on imagine le meilleur, on peut être terriblement déçu. Donc effectivement, ça peut être une stratégie pour ne pas être trop déçu, pour ne pas être trop malheureux, d'imaginer le pire. Moi, je suis incapable de le faire. C'est-à-dire, j'essaye de ne rien imaginer du tout. C'est-à-dire de me dire, bon, on va voir comment les choses vont se passer. Et puis, j'ai plutôt ou une bonne ou une mauvaise surprise. Mais je ne cherche pas, effectivement, à me projeter dans l'avenir pour soit en idéalisant les choses, soit au contraire en les imaginant comme épouvantables.
Mais tout de même, Frédéric Lenoir, si je tente moi-même cette fois-ci de formuler une critique de l'optimisme, est-ce qu'on ne risque pas, en étant trop optimiste, de verser cette fois-ci dans la naïveté et de rendre par conséquent notre action soit inefficace, soit même pratiquement inexistante ?
Totalement. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'optimisme philosophique, c'est-à-dire fondé sur la raison, n'est absolument pas une forme d'imagination, de représentation idéalisée de la réalité, parce qu'on a besoin de se rassurer ou parce qu'on a besoin de croire que les choses vont aller mieux. Donc, il s'agit de rester toujours lucide. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire c'est à partir d'un même constat, d'une même observation, avec en essayant de mettre le plus d'objectivité dans l'analyse de la situation, que l'on peut dire que on pense qu'il n'y aura pas de solution, que les choses sont très mal parties, qu'on ne voit pas un avenir meilleur. Et là, je dirais que c'est un constat pessimiste qui m'arrive très souvent de faire hein, dans tout un certain nombre de situations. Et puis, dans d'autres situations, à partir d'une même analyse, je vais avoir plutôt un regard optimiste et à me dire « je pense qu'on peut s'en sortir, je pense qu'il peut y avoir des solutions ». Et là, je dirais que ça dépend complètement. C'est pour ça qu'il ne faut pas figer les choses en optimiste et pessimiste. On peut l'être à certains moments, on peut être pessimiste sur certaines choses avec totalement raison, et je donnerais raison à des gens très pessimistes sur, par exemple, la situation écologique. Là-dessus, je suis radicalement pessimiste. C'est-à-dire que je ne vois pas de solution à court terme qui permettrait d'inverser complètement la tendance dans laquelle on est parti. Et donc, je ne vais pas me bercer d'illusions. Je pense qu'on va vers des catastrophes écologiques de plus en plus importantes. Par contre, il y a d'autres sujets sur lesquels je suis tout à fait optimiste, alors que d'autres gens seront pessimistes. Par exemple, j'ai le sentiment que si on regarde l'histoire longue, le monde progresse, la conscience morale de l'humanité progresse. Et je vais vous donner quelques exemples. Dans l'Antiquité, l'esclavage était totalement normal. Eh bien, aujourd'hui, évidemment, ça n'existe quasiment plus. Le patriarcat a dominé le monde pendant des millénaires. Il est en train de disparaître de plus en plus, en tout cas en Occident.
Il y a encore 50 ans.
Oui, ça s'effrite énormément. L'homosexualité était un crime, un péché, un crime. On est en train de complètement revenir sur toutes ces positions. C'est-à-dire qu'au fond, et aujourd'hui, on s'intéresse même au sort des animaux, c'est-à-dire au bien-être animal, ce qui est quand même un progrès incroyable de la conscience et de l'empathie envers les autres espèces. Et donc, malgré tout ce qui va mal, malgré tous les problèmes, etc., on voit que dans l'histoire longue, eh bien, il y a un progrès de la conscience morale de l'humanité. Alors, je dis pas qu'il va continuer indéfiniment, il peut y avoir des régressions, mais on voit quand même que beaucoup de choses ont changé et que ça continue de travailler les individus. Et qu'on regarde les jeunes générations, ils sont très tolérants, ils ont une grande ouverture d'esprit. La plupart, au fond, ne sont plus du tout dans des schémas de jugement comme on l'a souvent été, etc. Donc, ça me rend raisonnablement optimiste sur le fait que cette conscience va continuer de progresser. Et donc là-dessus, je crois qu'on peut avoir des points de vue sur certaines choses optimistes et sur d'autres, comme l'écologie, pessimistes.
Alors je tempérerai juste quand même votre point de vue sur le rapport de la jeunesse à ces nouvelles questions. Quand même pas mal d'études, beaucoup d'études montrent, notamment chez les jeunes hommes, des points de vue beaucoup plus tempérés, beaucoup plus conservateurs, notamment sur les questions en rapport au féminisme. Laurence de Villers, vous souhaitiez réagir ?
Oui, parce que en fait, dès qu'on énumère des raisons d'être optimiste, d'emblée surgissent, et vous avez nuancé à l'instant, Quentin, d'emblée surgissent des raisons pour dire qu'on peut être pessimiste. Et les deux ont tort, les deux ont raison, parce que je pense qu'en fait, la logique qui nous fait continuer à vivre et à aimer vivre d'une certaine façon, parce qu'on est là, si on continue à vivre, c'est parce que on aime vivre. Je pense que les raisons qui font qu'on continue à vivre, c'est pas parce qu'il y a des raisons, justement. Alors je vais ajouter un autre mot qui n'est ni pessimisme ni optimisme, c'est l'espérance. Alors, vous allez me dire, oh là là, c'est encore pire que l'optimisme. Ben non, ça n'appartient ni à la logique de l'optimisme, ni à la logique du pessimisme. Je pense que l'espérance, dans un sens qui n'est pas religieux, hein, c'est pas poser qu'il y a un au-delà ou une justice divine qui fera que les méchants seront punis et les bons récompensés. C'est pas ça ce que j'entends par espérance. C'est cette idée que il y a sans doute pas de raison d'espérer, ou peut-être des raisons d'espérer, mais qui n'empêcheront pas les régressions, mais que l'espérance, c'est agir au-delà de ces raisons. Même s'il n'y a pas de raison d'espérer, bah, l'espérance permet d'agir. Même s'il y a des raisons d'espérer, ça n'empêchera pas de continuer à espérer parce que le pire peut encore advenir. Donc, vous voyez, je pense que, d'une certaine façon, je vous répondrai quand vous m'avez demandé de choisir ni pessimisme, ni optimisme, mais espérance. Et dans ce sens très précis, dans ce sens, par exemple, ce qui m'a toujours étonnée, c'est qu'un philosophe comme Camus, qui a défendu, pour le dire vite, la doctrine de l'absurde, c'est-à-dire que le monde est indifférent à mon bonheur, à mon désir de bonheur, il peut le satisfaire comme complètement le broyer, et bien ce même Camus, qui défendait l'absurde, avait une collection de livres chez Gallimard qu'il avait appelé l'espoir. Et ben moi je pense que c'est cet espoir-là, à la Camus, c'est-à-dire l'espoir que malgré tout, s'il n'y a pas de raison d'espérer, ou s'il y a un tout petit peu de raison d'espérer, ben ça doit être le seul moteur de mon action. Quoi qu'il advienne, que j'ai raison ou tort, qu'il y ait des régressions, qu'il y ait des effritements, qu'il y ait des lueurs, qu'il y ait au contraire des pages sombres, que la nuit arrive, et ben quand même, mon devoir d'homme, c'est d'espérer. Pas plus, pas moins.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'un homme qui, lui aussi, a décidé de ne pas choisir cet intellectuel, cet Edgar Morin. Il s'exprimait en 2012 et refusait justement la distinction entre optimisme et pessimisme.
Alors, quelle raison pour être optimiste ? Moi, je ne n'entre pas dans ces catégories qui opposent l'optimisme et le pessimisme. Du reste, moi je crois que les optimistes qui sont toujours confiants dans l'avenir, quand ils sont déçus, ce devient les pires pessimistes. Par contre, des pessimistes qui s'attendent au pire, quand ils ont des bonnes surprises, ils deviennent optimistes. Moi, je me définis comme un opti-pessimiste, c'est-à-dire quelqu'un qui voit les périls et les dangers que nous affrontons, mais qui voit en même temps qu'il y a des possibilités de sortie, même s'ils ne sont pas probables, mais qui sont possibles. Et je pense qu'il faut être ni optimiste ni pessimiste, qu'il faut être tonique et qu'il faut ne pas abandonner, qu'il ne faut pas dételer.
Il faut être tonique. Frédéric Lenoir, lorsqu'Edgar Morin parle d'opti-pessimisme, dans le fond, ce qu'il défend, c'est une forme de lucidité.
Tout à fait. Mais je suis complètement d'accord avec les propos de mon maître et ami Edgar Morin, puisque c'est effectivement, je crois, que ce que nous essayons de dire, hein, c'est que c'est la lucidité qui compte avant tout. Et après, les catégories de pessimistes, optimistes ne sont pas fondamentalement rationnelles et philosophiques. Et je trouve qu'effectivement, ce qui est important, et j'aime bien ce que disait Laurence de Villers sur l'espérance, c'est de mobiliser notre volonté, c'est de mobiliser l'action. Il n'y a pas que la raison, il y a aussi le désir, il y a aussi nos affects, nos sentiments, notre volonté. Et là, je crois que ce qui est important, quel que soit, c'est d'abord d'être lucide, ça c'est ce qui concerne la raison, et ensuite, c'est d'avoir une volonté d'agir, et d'essayer, si on le peut, d'améliorer le monde, de faire notre part, hein, comme disait Pierre Rabhi à propos du colibri. C'est-à-dire que chacun peut essayer à son niveau d'être utile, de faire quelque chose, et de mobiliser une action. Et moi, je me rends compte que ce qui m'aide à mieux supporter, entre guillemets, la souffrance du monde, c'est de ne pas être inactif. Alors que quand on est inactif, on subit totalement les choses. Quand on est actif, même à son petit niveau, quand on essaye de faire des choses ou des livres qui peuvent aider les gens ou des associations qui sont utiles à la société, eh ben on se rend compte que le fait d'être actif, le fait d'être engagé, de mettre de l'énergie dans l'action pour essayer de faire un petit quelque chose de positif, eh ben quelque part, ça rend plus serein.
Laurence de Villers, une réaction vous-même sur ce néologisme, celui d'opti-pessimisme. Qu'est-ce qu'il évoque chez vous? Qu'est-ce qu'il convoque même comme notion?
Alors, je suis d'accord, mais moi, je voudrais ni l'un ni l'autre, justement, parce que encore une fois, moi, je broie du noir, mais c'est en broyant du noir que je vois clair. Donc, je choisis le noir, hein, mais avec justement toute cette nuance, sans jeu de mots que j'ai apporté, c'est pour aller jusqu'au bout de l'extrême lucidité, tout en me disant qu'il y a encore du possible. Parce que vous voyez, très souvent, on reproche aux pessimistes de fermer la porte. Ben moi, je suis une pessimiste qui ouvre les fenêtres. Je suis pessimiste en me disant qu'il y a encore du possible. Et là où je rejoins parfaitement Frédéric Lenoir, c'est que c'est l'action qui montre que ça fonctionne pas, être optimiste ou pessimiste. Parce que l'action véritable, ben, elle apporte quelque chose de nouveau avec elle. Et puis, je donnerais comme exemple... pour montrer que j'en appelle pas à, et je pense que Frédéric Lenoir non plus, j'en appelle pas à des actions héroïques forcément, hein, quand je dis agir. Penser par soi-même, donc pas répéter des choses entendues, pas se répéter soi-même, mais penser vraiment, pour moi c'est une action. Et chaque fois que j'ai une idée, j'en ai pas tout le temps, hein, mais chaque fois que j'ai une idée, je me dis, ah bah quand même, il y a encore du possible. Vous voyez, et là je me sens, au fond de ce noir que j'habite, et ben je me sens optimiste, s'il faut employer le mot. Donc pensez vraiment, je pense que de nos jours, avec avec des intelligences dites artificielles qui vont penser à notre place, avec le flux d'informations qui nous submerge, je pense que on peut aussi privilégier la pensée comme une action. Et je pense que c'est comme craquer une allumette, voilà, il fait un peu plus jour quand on pense vraiment.
Je voudrais rebondir, Frédéric Lenoir, sur ce que vous expliquiez un petit peu plus tôt dans cette discussion, notamment cette idée de regarder le temps long, le temps très long de l'humanité pour comprendre que nous avons cheminé peu à peu sur un certain nombre de sujets en direction du progrès. À partir du moment où cette notion même de progrès est altérée, abîmée, c'est le cas aujourd'hui, est-ce que c'est pas plus compliqué que jamais, justement, que d'être optimiste ?
Oui, parce que le progrès, cette idée de progrès qui est née au XVIIe siècle, hein, avec Turgot, etc., qui s'est développée avec tout le siècle des Lumières, reposait sur un mythe. C'est-à-dire, ce mythe, c'est la croyance, en fait, que le monde, grâce à la raison, à la science et à la technique, ne va faire que s'améliorer et qu'on va régler tous les problèmes de l'humanité avec cette espérance-là. Donc, il y avait un mythe du progrès. Après, évidemment, Hiroshima, Auschwitz, les deux guerres mondiales, etc., il s'est effondré. Et on voit que les progrès de la raison, de la science et tout, peuvent amener des choses positives, mais des choses également très négatives, des armes destructrices, la catastrophe écologique, etc. Donc, le mythe du progrès s'est effondré. Par contre, je crois que ce qui ne s'est pas effondré, c'est la possibilité d'un progrès. C'est-à-dire, même si le progrès n'est pas certain, même si le progrès n'est pas inéluctable, comme le croyaient les penseurs des Lumières, il y a la possibilité d'une amélioration du sort de l'humanité. On peut trouver des solutions dans un certain nombre de domaines pour essayer de faire face à des défis qui sont très importants, qui sont très nombreux aujourd'hui, il faut le reconnaître, d'autant plus qu'on est dans un monde globalisé, donc ça rend tout beaucoup plus complexe. Et là, je crois que il ne s'agit pas de baisser complètement, je dirais, les armes et de se dire, puisque le progrès inéluctable n'existe plus, n'essayons pas d'améliorer ce qu'on peut améliorer. Et là, je crois qu'il faut vraiment bien faire cette distinction et continuer d'espérer, pour reprendre l'expression que j'aime beaucoup de Laurence de Villers, d'espérer qu'on peut aller vers un monde meilleur. Mais il faut le faire de manière lucide, de manière rationnelle et avec des outils et des moyens qui sont adaptés et qui peuvent avoir une efficacité.
Laurence de Villers, vous êtes d'accord sur ce point ? Il faut arrêter, peut-être parce que ce n'est plus fondamentalement raisonnable de croire à la grande, grande idée de progrès telle que l'avait dessinée Turgot, mais croire bien plus à quelques progrès, petits progrès qu'il faut avancer chaque jour ?
Progrès et régression. Je pense que la croyance dans un progrès rectiligne a laissé place à l'idée qu'il peut y avoir des progrès et des régressions. Donc le progrès, c'est pas une ligne droite. Je pense que c'est ça maintenant qu'on doit affronter. Et puis je crois que pessimisme et optimisme, ça répond aussi au fait que le ciel est désormais vide. C'est-à-dire que on a moins cette croyance forte que un Dieu est aux commandes du cours des choses. Et donc on ne cesse de s'interroger sur est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste, comme si on essayait de se rassurer, là où maintenant il n'y a plus un Dieu pour nous dire où on va et comment on y va. Je crois que l'effacement de la religion, ça nous laisse pas tant inconsolés que pas rassurés du tout. Et que je mesure la fréquence à laquelle on me demande si je suis optimiste ou pessimiste par le fait que justement il y a plus un Dieu pour nous donner une feuille de route. Et ça je pense que c'est un fait marquant de notre modernité. Et puis il y a une autre chose qui me frappe, c'est que on a remplacé Alors je ne sais pas si on l'a remplacé tel quel, mais on a substitué à la croyance en un Dieu qui présiderait à nos destinées et à la croyance au progrès, au fait de positiver. Très souvent, on me demande plus si je suis pessimiste, mais on me dit « Ah, mais tu positives pas ». Et là, je m'obstine. Non, je positive pas. Je pense qu'il y a des choses qui ne doivent pas être positivées. La colère, ça se positive pas. Je pense que Frédéric Lenoir va sans doute pas me rejoindre sur ce terrain-là, mais je pense qu'il y a des choses qui ne demandent pas à être positivées, qui ne le peuvent pas. La colère, la plainte. Moi, quand je me plains, je veux pas qu'on me dise positive. Je veux qu'on entende ma plainte. Le chagrin, le deuil, ça se positive pas. Et moi, je trouve qu'on est entré dans une ère qui n'est plus celle du progrès, mais du positiver à tout prix. Et là, pour le coup, je ne suis pas d'accord.
Alors justement, je donne la parole à Frédéric Lenoir, puisque vous avez été directement interpellé sur ce sujet.
Oui, alors là, je pense qu'on revient aussi à une question de tempérament et peut-être même de culture. Regardez comme les anglo-saxons sont beaucoup plus effectivement dans le positivé. Les Américains, beaucoup de peuples du Nord, on voit toujours se disent bon bah il y a des difficultés mais on va en sortir, c'est-à-dire essaye de voir toujours la dimension plus positive et d'avoir un état d'esprit positif pour essayer d'avancer, de s'en sortir. Moi j'ai plutôt ce tempérament-là aussi et c'est vrai que contrairement à Laurence, j'ai tendance face à l'adversité à me dire il y a peut-être derrière cet obstacle, derrière ce qui me contrarie, derrière ce qui est désagréable, derrière une maladie, il y a peut-être une opportunité. Vous savez le mot crise en chinois, c'est un idéogramme qui veut dire à la fois danger, opportunité. Et donc, je me sens tout à fait dans cette vision taoïste du monde, c'est-à-dire derrière tout danger, peut y avoir une opportunité de voir les choses autrement, de grandir, de s'améliorer, de comprendre autre chose, de changer de direction. Et donc, lorsqu'il m'arrive une difficulté, un obstacle, une épreuve, ou que je constate, même dans l'histoire de l'humanité, une épreuve collective, je me dis, ça peut être peut-être l'opportunité de changer quelque chose. Et donc, je vois toujours l'étape d'après, c'est-à-dire ce qu'il peut y avoir éventuellement, et le éventuellement est très important, parce que ce n'est pas de la naïveté, de positif derrière un obstacle apparent. Et là, je rejoins mais totalement la philosophie stoïcienne. On parlait de Marc Aurèle, bien Épictète, Marc Aurèle nous dit ça constamment, c'est-à-dire que derrière les événements extérieurs qu'on ne peut pas changer, vous savez que la grande distinction stoïcienne, c'est distinguer ce qui dépend de moi, que je peux changer, améliorer, etc., de ce qui ne dépend pas de moi, sur lequel je n'ai aucune prise, que je ne peux absolument pas changer, le destin, on va dire, et bien à ce moment-là, ils nous disent, comme le dira Nietzsche ensuite, amor fati, c'est-à-dire qu'il vaut mieux aimer son destin et voir la possibilité de quelque chose de positif qui va me faire grandir ou qui va me faire bouger, plutôt que de se plaindre, que de dire « Ah là là, je suis malade, il m'arrive telle épreuve, telle difficulté », parce que Épictète nous dit « La plainte ne va rien changer à la situation, on ne peut pas le maîtriser, et on va souffrir deux fois plus. On va souffrir de l'épreuve qui nous tombe dessus, et on va souffrir du ressentiment et de la colère contre la vie qu'on a. » Et donc, il nous dit « Autant accepter ce qu'on ne peut pas changer, parce qu'au fond, ça ne changera rien au fait qu'on ne peut pas le changer. Et surtout, on peut vivre meilleur, de manière plus, on va pas dire heureuse, mais en tout cas de manière plus sereine, une épreuve lorsque on pense qu'on peut la transformer, la transmuter, qu'il y a une possibilité de quelque chose d'autre, de différent qui nous attend derrière cet obstacle.
Alors j'aimerais vous faire entendre la voix d'un homme qui, lui, positive même l'échec. Il n'est pas anglo-saxon, il est français, il est chef d'entreprise, il est entrepreneur également, il s'appelle Xavier Niel.
D'abord, il y a un truc super important, c'est l'échec. Je suis le mec qui se plante le plus sur Terre. Si vous prenez rien que l'année dernière, j'ai essayé de racheter M6. Je me suis planté. Après, j'ai essayé de lancer une fréquence pour récupérer M6. Je me suis planté. On avait avec des copains essayé de racheter la troisième chaîne de cinéma en France qui s'appelle CGR. On était sûr de gagner. La presse vous a donné gagnant. Je me suis planté. J'ai essayé de racheter Casino. Je me suis planté. Donc, quand les gens me disent tout réussit, on va parler après de ce sujet, mais tout réussit, moi, je suis le mec qui se plante le plus. Mais faut se planter pour réussir. C'est systématique. Et donc, je réussis de temps en temps une grande chose parce que je me suis planté sur 100 fois avant sur des grandes choses.
Bon, vous voyez, Laurence de Villers, l'optimisme, ça oui, permet la réussite de quelques-uns quand même, à minima.
Alors, je crois que sur l'échec, il faut quand même dissiper un malentendu parce que très souvent, j'entends effectivement, oui, mais c'est de l'échec qu'on apprend, l'échec m'a fait rebondir, etc. Alors, moi déjà, je trouve bien qu'on survive à un échec. Quand je rebondis pas, je suis déjà heureuse d'être encore en vie. Et puis, je ne suis pas certaine qu'on fasse des réussites de tous les échecs. Je pense que c'est quand on laisse le temps à l'échec d'être l'échec. C'est-à-dire que très souvent, on nous demande de positiver un peu trop vite l'échec. De « ouais, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu en fais ?» Mais rien, j'en fais rien, je le regarde dans les yeux. Moi, je pense qu'il faut quand même laisser son temps au temps de l'échec. Et c'est quand on a bien regardé l'échec dans les yeux, qu'on n'a pas cherché à le positiver, qu'il n'y aura peut-être pas l'effet de boomerang, parce que ce qu'on a nettoyé trop vite sous le tapis reviendra un jour ou l'autre. Et puis, c'est à la condition de vraiment regarder l'échec dans les yeux pour ce qu'il est, que peut-être on en fait une victoire. Moi, de toute façon, j'ai un côté un peu Churchill. Je préfère parler de défaite et de victoire que d'échec et de réussite. Parce que des échecs, on n'apprend pas toujours quelque chose, des réussites non plus, mais on peut faire de certaines défaites une victoire, et parfois des victoires qui sont pas triomphales, qui ressemblent presque à la défaite. Vous voyez, moi, mes termes, c'est vraiment pas l'échec et la réussite, et je trouve qu'on nous ment beaucoup sur l'idée que de l'échec, on apprend. Bah, pas toujours.
Frédéric, Frédéric Lenoir, est-ce que vous-même préférez la défaite à l'échec ?
En tout cas, moi, je me plutôt que Churchill, je me reconnais davantage dans ce que disait Nelson Mandela, c'est-à-dire soit je gagne, soit j'apprends. Mais au fond, je ne perds jamais. Je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'au fond...
Donc avec Xavier Niel également.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, je pense que, au fond, il y a pas vraiment de défaite. Il y a effectivement, on peut gagner quelque chose qu'on voulait obtenir, etc. Mais si on n'obtient pas ce qu'on veut, on apprend quelque chose. Donc, ce n'est pas forcément une réussite, ce n'est pas forcément une victoire, mais on apprend quelque chose. Et apprendre quelque chose, ça nous nourrit en expérience, ça change notre regard, ça nous fait évoluer, ça nous fait réfléchir, ça nous fait maturer. Et donc, on ne cesse d'apprendre à travers nos échecs. Mais en même temps, je suis d'accord avec ce que disait Laurence de Villers, c'est-à-dire qu'il faut regarder l'échec en face, il faut absolument pas le squeezer, il faut pas le zapper, voilà. Il faut pas se dire, oh, bah, j'ai perdu, c'est pas grave, c'est mieux, ce sera mieux. Non, il faut ressentir l'amertume de l'échec. Il faut ressentir la tristesse de l'échec. Il faut le vivre, et puis après, effectivement, on peut se mettre dans cette posture, on va dire, plus positive, de se dire, bah, c'est pas grave. Une fois que j'ai traversé cette émotion difficile, douloureuse, qu'il ne faut pas zapper, eh bien, je vais essayer de comprendre comment je peux rebondir à partir de cet échec.
Prendre le temps, donc, de se confronter à la défaite et à l'échec, Laurence de Villers.
Ben oui, ce que je trouve de la victoire dans ce qu'a dit Xavier Niel, c'est l'humilité de dire « je me suis planté ». Ça, c'est grand, ça, c'est beau.
D'accord, très bien. Alors, nous finirons sur ce point. Merci beaucoup à tous les deux. On a bien compris que ce que l'on pouvait se souhaiter collectivement à minima pour 2025, c'est de la lucidité. Laurence de Villers, je rappelle que vous êtes philosophe enseignante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié cet ouvrage aux éditions Point en 2024, intitulé « Être quelqu'un de bien, philosophie du bien et du mal ». Frédéric Lenoir, vous êtes philosophe et écrivain. Vous avez publié, en tout cas, votre dernier ouvrage. Lui s'intitule « Le rêve » de Marc Aurèle. C'est aux éditions Flammarion, paru aussi cette année, en 2024. Merci encore à tous les deux.